VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. L'épouse du président nigérien Muhammadu Buhari a quitté le Nigeria pour rendre visite à son époux en traitement médical à Londres depuis début mai et fera donc une escale ce lundi au sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Aïcha Buhari doit faire une apparition symbolique à une réunion d'épouses de chefs d'État en marge du sommet de l'UEA se tenant donc dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, selon un communiqué de son bureau publié dimanche soir qui précise qu'elle se rendra en Grande-Bretagne mardi. M. Buhari, âgé de 74 ans, a quitté le Nigeria depuis le 7 mai pour un congé médical au Royaume-Uni. Les causes de sa maladie n'ont pas été dévoilées, mais il a semblé extrêmement affaibli lors de ses dernières apparitions en public. Nouvelle violence en République centrafricaine où des échanges de tirs entre des éléments de l'ESLECA et des casques bleus ont fait une quinzaine de morts dans le centre du pays. Timothée Donangmaï.
Un responsable d'ONG internationale que cite l'AFP affirme qu'au moins 15 combattants de l'ex-Seleka ont été tués dans la fusillade survenue à Kagabandoro, à 400 km au nord de Bangui. La mission de l'ONU en RCA, la MINUSCA et diverses sources sécuritaires attribuent la responsabilité de l'incident à des membres du groupe ex-Seleka du mouvement patriotique pour la Centrafrique, le MPC. Les hommes du MPC se mettent la pagaille et se sont confrontés au contingent pakistanais et burundais de la MINUSCA stationné dans la ville, rapporte l'une des sources. Pour le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Montero, les forces de la MINUSCA ont fait leur travail en protégeant les populations civiles des éléments du MPC. Chef-lieu de la préfecture de Nanagrebizi, Kagabandoro accueille depuis l'automne 2016 près de 20 000 déplacés. Les violences y ont repris depuis la fin mai 2017, rendant difficile l'intervention des humanitaires dans cette région.
Et puis, nous allons le projet d'une force commune antiterroriste de 5 000 hommes du G5 Sahel devrait être opérationnel à la mi-août au plus tôt. Outre les 50 millions d'euros de l'Union européenne, la France va investir 200 millions d'euros d'ici la fin de l'année. L'annonce en a été faite par le président français Emmanuel Macron qui a participé au sommet extraordinaire du G5 tenu dimanche à Bamako. Au cours de cette rencontre, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a par ailleurs souligné qu'il ne retirera pas son projet de révision constitutionnelle. Kassim Traoré.
Les dirigeants des pays du G5 Sahel, le Mali, le Tchad, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso doivent contribuer pour faciliter la mobilisation de 423 millions d'euros. Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État du Mali, présent en exercice du G5 Sahel.
Le financement tel que nous l'avons évalué, 423 millions d'euros. Chacun de nos États va faire l'effort de 10 millions d'euros. Convertissons, je crois que ça fait 6 milliards. C'est quand même assez appréciable. Cela parce que nous souhaitons aller assez vite. Il y a urgence là, il y a urgence.
La France s'engage aux côtés des pays du G5 Sahel pour combattre le terrorisme. Emmanuel Macron, président de la République française.
Pour ma part, j'ai donc confirmé le soutien de la France à cette initiative qui passera d'abord par un soutien opérationnel aux unités, avec un soutien accru de l'opération Barkhane en conseil, assistance et accompagnement au combat. Une aide matérielle importante avec 70 véhicules tactiques, du matériel de communication et d'interopérabilité des forces, du matériel de protection pour les hommes.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, l'évaluation des 60 000 enseignants contractuels annoncés par le gouvernement se tiendra à la mi-juillet, mais tous les syndicats d'enseignants appellent à un boycott d'une telle évaluation, la jugeant contraire au texte en vigueur. Reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
C'est un communiqué du ministère des enseignements primaires qui informe de la tenue les 15 et 16 juillet prochains de cette évaluation voulue depuis février par les autorités à la suite de constats sur une baisse, sinon un manque total de niveau chez les enseignants contractuels en particulier. Daouda Mamadou Marté, ministre des enseignements primaires.
Je vais vous donner, pour que vous compreniez, quelques-unes des questions qui leur ont été posées. Abdou a 26 poules. Le chat de son voisin en a dévoré la moitié l'année dernière. Combien de poules lui reste-t-il? Il y a eu des mes enseignants qui ont eu zéro. Fanna la potière a fabriqué 30 canaries. Très tôt le matin, son petit-fils en a cassé 12. Combien de canaries possèdent-elles maintenant? Mes enseignants, certains de surcroît directeurs d'école, ont eu zéro. Vous voyez bien que À partir de cet instant, nous sommes interpellés.
Sans s'opposer au principe de cette évaluation, les syndicats d'enseignants appellent leurs militants à la boycotter parce que dans la forme, elle est contraire aux dispositions du statut général de la fonction publique qui régit aussi les contractuels. Moukaila Alidou, secrétaire général du syndicat des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base.
Le statut de la fonction publique dit qu'on ne peut pas faire une évaluation qu'en situation de classe. Et voilà que le ministère aujourd'hui veut vouloir prendre les enseignants, les mettre dans une classe avec deux épreuves, une en français et une en mathématiques, pour dire qu'ils sont en train de chercher la qualité. On dit que les enseignants n'ont pas de niveau, je l'ai suivi, où il dit qu'il y a des enseignants qui ne savent même pas un kilomètre égal à combien de mètres. Mais cet enseignant a été recruté comment? C'est eux qui les ont recrutés, ce ne sont pas les syndicats.
L'idée première de cette évaluation était qu'elle devait concerner tous les enseignants, et malgré le fait que ceux qui sont immatriculés à la fonction publique et qui constituent le plus grand nombre des militants de son syndicat ne soient plus évalués, Issoufou Arzika, le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, s'insurge contre la forme de cette évaluation.
Avec son évaluation, entre guillemets, le ministre Marte va planter le système éducatif s'il continue comme ça. Et c'est déjà un système éducatif nonchalant. Et ça aura beaucoup de conséquences sociales, économiques. Et on ne sait pas ce que deviendront les enseignants qui vont être remerciés. Il avait marqué l'aventure qu'ils ne remercieront personne. Non, mais pendant les négociations, le président du comité a été clair. Il dit si Marte ne peut pas vous dire, moi je vous l'ai dit, nous allons remercier ceux qui ne sont pas capables de continuer à apprendre aux élèves. Il l'a dit. Maintenant, hier, il nous répète qu'il ne va pas le faire. On va voir.
Les contractuels sont recrutés par l'État pour pallier au manque de personnel enseignant. Beaucoup d'entre eux accèdent à la fonction sans formation de base. Ils représentent aujourd'hui plus du tiers du corps enseignant du pays et cette évaluation est perçue chez les syndicats et beaucoup d'autres citoyens comme une façon pour le gouvernement de réduire leur nombre. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le président du Soudan, Omar El-Béchir, a prolongé dimanche de 4 mois un cessez-le-feu en vigueur dans les États en conflit du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Initialement d'une durée de 4 mois, le cessez-le-feu décrété en juin 2016 a déjà été prolongé 3 fois dans le passé. Cette prorogation, qui court jusqu'au 31 octobre, intervient à quelques jours d'une décision du président américain Donald Trump sur une levée de certaines sanctions imposées depuis 20 ans au Soudan. L'Égypte accueille mercredi les chefs de la diplomatie d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Bahreïn pour discuter de la crise avec le Qatar, mise au ban pour son soutien présumé au terrorisme, a annoncé le ministère des Affaires étrangères au Caire. Les 3 pays du Golfe et leurs alliés égyptiens ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar le 5 juin et lui ont imposé des sanctions. Ils accusent le richissime petit émirat gazier de soutenir le terrorisme et lui reprochent ses liens avec l'Iran, grand rival régional de l'Arabie Saoudite. Ils ont donc donné à Doha 10 jours pour accepter une liste de 13 demandes officielles, exigeant notamment la fermeture de la télévision Al Jazeera et d'une base militaire turque, ainsi que la réduction des relations avec l'Iran. Ce délai a expiré dimanche soir, mais il a été prolongé de 48 heures. Les ministres de l'Intérieur italiens, français et allemands veulent travailler à un code de conduite pour les ONG secourant les migrants en Méditerranée et renforcer le soutien aux gardes-côtes libyens, a annoncé Paris aujourd'hui. Ces propositions, qui seront soumises aux 28 États membres de l'Union européenne en fin de semaine, prévoient aussi de renforcer la stratégie de l'Union européenne pour les retours, de fournir un soutien additionnel au Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR, pour améliorer les infrastructures d'accueil en Libye et d'accélérer le dispositif européen de relocalisation, selon un communiqué publié après une réunion dimanche à Paris des 3 ministres en présence du commissaire européen en charge des migrations. Donald Trump et Angela Merkel comptent se rencontrer en tête-à-tête juste avant le sommet du G20 cette semaine, a indiqué aujourd'hui le porte-parole de la chancelière allemande, alors que les sujets de friction se sont multipliés entre les deux dirigeants. Une rencontre est en effet envisagée avec le président américain avant le début du sommet du G20, très probablement jeudi, en début de soirée, a déclaré à la presse Stephen Seibert. Le sommet lui-même se tiendra vendredi et samedi à Hambourg. Et puis, on termine avec les 18 personnes dont les secours n'ont pas encore retrouvé la trace en Allemagne dans l'accident de car qui s'est produit aujourd'hui. Toutes ces personnes seraient décédées, selon un communiqué de la police locale. Jean-Roger Billon, ce journal est terminé. On se retrouve très prochainement.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.